BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et la blockchain, les blockchains en contiennent une fraction. On consacre donc ce rendez-vous hebdomadaire des pros des cryptos aux blockchains, aux cryptos qui les accompagnent chaque vendredi aux alentours de 16h30 avec nos trois mages. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Owen nous accompagne aussi à distance. Owen Simonin, bonjour Owen.
Bonjour Guillaume.
On est ravis de vous retrouver. Sa chaîne YouTube, Hacher, avec un H au début, et à la tête Owen de Just Mining. Xavier aussi est avec nous, Xavier Fenot pour Interactive Trading. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Bon, Xavier, il fait très chaud en ce moment, aussi d'ailleurs sur le marché des cryptos. Les journées haussières se font rares depuis 10 jours. Xavier, l'intervention de la Fed n'a visiblement cette semaine pas arrangé les choses. Est-ce qu'à court terme, vous voyez malgré tout des signaux qui pourraient nous indiquer le bout du tunnel?
Ben, c'est vrai que, ouais, grosse canicule, hein, cette semaine. Alors, dans l'ensemble, même si c'est pas encore terminé, parce que je rappelle que le marché des cryptos cote 7 jours sur 7, on est à moins 17% pour le moment sur la capitalisation totale, donc qui est passé sous les 1000 milliards de dollars, moins 20% sur les deux géants, Bitcoin, Ether. On a quand même certains altcoins, on va essayer quand même de voir le verre à moitié plein. Certains altcoins qui essayent de tirer leur épingle du jeu, comme par exemple HNT qui prend 30% sur la semaine, FTM ou encore EGLD qui prennent 10%. Alors, ce sont des rebonds qui restent très faibles, hein, sachant d'où l'on vient. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle la capitalisation totale, si on retire le Bitcoin et l'Ether, ne perd que, entre guillemets, pour le moment, sur la semaine, 6%. Donc, concernant la Fed, c'est vrai que le marché a plutôt, dans un premier temps, perçu cette triple hausse des taux de la Fed comme une bonne nouvelle, qu'elle prenne vraiment au sérieux la priorité number one, finalement, du moment, hein, qui est l'inflation. D'ailleurs, au même moment que Jérôme Powell s'exprimait, on avait exactement, techniquement, les mêmes configurations en données vraiment très, très courtes, des marchés traditionnels avec le marché des cryptos. C'était vraiment du copier-coller. Et puis après, on a eu la mauvaise digestion qu'on connaît le lendemain, aussi bien d'ailleurs sur le marché traditionnel que sur le marché des cryptos. Donc, pour répondre à votre question, techniquement, on n'a pour le moment aucun signal à court terme qui nous indique le bout du tunnel. La tendance reste baissière à court terme. Elle se poursuit. C'est matérialisé par des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On a un gros ménage qui se poursuit, que ce soit financièrement, au travers de liquidations de positions qui sont trop exposées, des records de clôture de positions en perte. On a également ce paysage, finalement, des projets qu'on épure, qui d'ailleurs est un mal à court terme pour un bien à long terme. Mais c'est pour le moment, l'état à court terme, le marché est en train d'encaisser des coups. Donc, pour le moment, il réussit pas à se relever. On a une baisse lente, continue, des rebonds qui sont trop limités, même si mercredi, de rebond du Bitcoin qui a pris 2%, mais c'est pas suffisant. Donc on est vraiment dans une situation à l'image de 2018, techniquement parlant. Hein. C'était, je rappelle, un an de baisse. On a eu ensuite 6 mois de hausse assez violente. On a eu ensuite un an de phase de latérisation avant l'envol de l'ensemble des cryptos sur les records historiques qu'on avait connus la fin d'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est vraiment copie conforme des marchés traditionnels, amplifié du fait de la petite taille du marché, c'est-à-dire du fait qu'il y ait de la volatilité. Et à court terme, bon, voilà, faut pas se voiler la face. Pour le moment, il n'y a pas d'alerte positive, même si 20 000 dollars sur le Bitcoin est un niveau pour le moment psychologique qui est défendu depuis le début de la semaine.
On y est quasiment là sur les 20 000 dollars. En effet, on est juste au-dessus. Bitcoin qui a perdu 50% depuis le début de l'année et l'Ether, lui, a perdu 70% des performances, vous le disiez, comparables à 2018. Ouais. Qu'attend le marché, Xavier, pour se ressaisir pour de bon?
Alors, c'est vrai que si on prend cette performance que vous venez de dire, ça fait beaucoup. C'est la réalité, hein, cette performance brute, c'est la réalité par rapport au pro. Mais on oublie toujours d'où l'on vient, 2021, 2020. Et on revient, en fait, sur les niveaux de fin 2020, début 2021, comme c'est le cas pour les marchés traditionnels, c'est-à-dire l'indice SP500, par exemple, l'indice Dow Jones ou presque l'ensemble des indices. Et Alexandre, donc qui intervient alternativement ici avec Claire qui est sur votre plateau, l'a dit sur Twitter. Je trouve ça intéressant parce qu'il a pris du recul en disant pour l'or, finalement, depuis fin 2020, début 2021, on est exactement au même niveau. L'euro-dollar a perdu 15% et certaines actions américaines sont à des niveaux bien en dessous de début 2021. Donc effectivement, on a eu des performances exceptionnelles en 2020-2021 et exceptionnelles, dans le mauvais sens du terme, en 2022. Voilà, ça, c'est pour contextualiser. Après, pour répondre à votre question, qu'attend le marché pour se ressaisir? Et c'est vrai qu'on cherche où et quand la baisse va s'arrêter, plutôt que quels sont les facteurs qui pourront être favorables pour réentamer un cycle haussier. Déjà, on l'a vu, cette corrélation avec les marchés traditionnels, donc il nous faudrait déjà une stabilisation des marchés traditionnels liée à une accalmie sur les taux, soulagement de l'inflation liée à l'impact que les banques centrales pourraient avoir avec leur resserrement monétaire. Pour ça, a priori, il faudra quand même un peu de temps. Moins d'huile aussi sur le feu toutes les semaines. On a l'impression que cette baisse est alimentée aussi du nettoyage finalement de projets qui souffrent. En fait, cette espèce de tri naturel qui est en train d'être fait dans un contexte difficile. Et c'est pour ça que malgré le contexte, faut quand même continuer à comprendre les enjeux qu'il y a derrière ces variations, les événements, les développements, les erreurs aussi derrière justement les cryptos. Ça semble secondaire dans un tel marché où tout est lié et tout est anxiogène, mais c'est tellement prioritaire pour justement assumer ses choix quand ça repartira. Et c'est pour ça, Guillaume, notamment votre émission que vous avez mis en place, il faut vraiment que ça perdure, parce que c'est maintenant qu'il faut comprendre justement ces enjeux. Lorsque le marché repartira, ce sera important de savoir sur quel projet est-ce qu'on va, quel projet on va prioriser. Et puis, il nous faudra aussi des bonnes nouvelles. Par exemple, la migration des terres qui doit montrer justement que ça se passe bien. Bon, ça sera la rentrée. Il faudra aussi avoir un peu de patience. Donc, techniquement, si on prend des points de repère, déjà, il faudra que le Bitcoin repasse au-dessus des 23 000 $, 1 250 $ sur l'Ether, qu'on repasse les 1 000 milliards de dollars de capitalisation totale pour respirer. Et je pense qu'on aura l'occasion de reparler lorsqu'on réactivera une tendance haussière à court terme.
Xavier Fenot nous accompagnait pour Interactive Trading, et bien sûr qu'on va poursuivre les pros des cryptos chaque vendredi sur BFM Business. Puis vous savez qu'on est monté en puissance et depuis quelques semaines aussi au quotidien désormais aux alentours de 16h30 sur BFM Business avec notre club BFM Crypto également. Claire Balva nous accompagne, Owen Simonin aussi comme chaque vendredi. Un gros événement rassemble en ce moment les acteurs des nouvelles technologies et c'est à Paris que ça se passe. BFM Business est partenaire d'ailleurs de cet événement, il s'agit de Vivatech et les cryptos sont d'ailleurs aussi au cœur de ce rendez-vous Vivatech. Les stars des cryptos sont présentes. Vitalik Buterin participe, le cofondateur d'Ethereum, ainsi que CZ, le patron de Binance. Ils se sont d'ailleurs l'un et l'autre exprimés au cœur de Vivatech ces derniers jours. Owen, quel point saillant retenez-vous de leurs interventions respectives ?
Alors, du point de vue de CZ, il est arrivé, il a très rapidement remis le contexte autour de Binance. Binance, 120 millions d'utilisateurs, 34 trillions de dollars échangés sur la plateforme en 2021. Et il a également répondu à pourquoi la France, en rappelant que c'était le pays de la start-up, mais également que la France avait un régulateur, l'autorité des marchés financiers, qui était très strict, mais qui était très réactif pour répondre et pour échanger sur les sujets de régulation, ce qui était clairement un objectif pour Binance de pouvoir échanger avec un régulateur qui avait justement ce degré de réactivité. Il a également précisé son amour pour le bon vin. De son côté, Vitalik Buterin a beaucoup plus parlé de son histoire. Comment est-ce qu'il est tombé dans les crypto-monnaies, l'amour qu'il a eu pour Bitcoin, mais également le fait qu'il ait rencontré énormément de développeurs qui, eux, voulaient également utiliser la puissance de la blockchain, mais pas uniquement sur des questions de cash et sur des questions de finance, mais bel et bien sur tout plein d'autres applications décentralisées. À ce moment-là, il a donc cherché des gens pour construire son projet Ethereum. Il l'avoue que beaucoup de gens disaient qu'il ne codait pas bien. Il savait déjà coder à l'époque, mais beaucoup de gens lui faisaient des reproches là-dessus. Et on apprend même dans le discours de CZ, en parallèle, qu'en 2015, Vitalik Buterin était venu justement pitcher son projet à CZ, qui n'y avait tout simplement pas cru, en imaginant un monde décentralisé permettant de faire des applications, quelque chose de beaucoup trop gros pour être réalisable. Malgré tout, les deux se sont bien développés, bien qu'ils soient dans deux chemins totalement différents. Et CZ le reconnaît, Vitalik Buterin est un génie qui pousse à l'innovation et qui s'accorde à essayer d'ouvrir des verrous techniques que personne n'a réussi à ouvrir jusqu'alors. Vitalik, de son côté, lui, le précise. Aujourd'hui, l'heure est à la scalabilité. Essayez de conserver un maximum du niveau de sécurité de la blockchain Ether tout en assurant le fameux merge, le moment où la blockchain va passer de proof of work à proof of stake. Voilà pour le petit récap de ces deux interventions.
Exactement, des deux stars de l'écosystème crypto, Vitalik Buterin et CZ, deux stars aux responsabilités quand même très différentes dans cet écosystème. Claire, comment pourrait-on définir leur rôle à l'un et à l'autre ? Dessine-moi Vitalik Buterin, dessine-moi CZ, Claire, leur rôle dans l'écosystème.
Vitalik Buterin, donc, c'est le créateur d'Ethereum et il a une voix qui porte beaucoup dans l'écosystème Ethereum. C'est un développeur, c'est un expert technique et donc effectivement, il a beaucoup d'insights techniques et même un peu philosophique, politique sur l'écosystème crypto, particulièrement Ethereum, mais pas que. Et c'est le fondateur non anonyme d'Ethereum, contrairement à Bitcoin, où le fondateur Satoshi Nakamoto est anonyme. Et donc pour cette raison, d'ailleurs, Vitalik Buterin est parfois critiqué par certains bitcoiners, maximalistes bitcoin, qui disent que Vitalik Buterin est un point de centralisation et donc quelque part une faille presque dans l'écosystème Ethereum, puisqu'il est très écouté, peut-être trop écouté par les développeurs, parce que sa voix est tout simplement très légitime et qu'elle porte. Sisi, alors il a aussi un énorme pouvoir, mais évidemment c'est un peu différent. C'est le créateur, le PDG de Binance, qui est la plus grosse plateforme d'échange crypto. Il a aussi développé des choses annexes à cette plateforme, puisqu'il développe une marketplace NFT, il développe la Binance Academy. Donc c'est quelqu'un qui étend son terrain de jeu beaucoup. Son pouvoir d'influence, il est avant tout financier. On se souvient de sa déclaration récemment où il disait investir 100 millions d'euros en France. On voit que ça intéresse beaucoup les gouvernements. Et malgré tout, il a été lui aussi beaucoup critiqué pour une gestion administrative et fiscale un peu douteuse. On a parlé de siège social non domicilié pour Binance, donc ça a terni son image et celle de son entreprise. Et on a vu qu'il cherchait, que Binance cherchait à se racheter auprès des régulateurs. Et voilà, sortait le drapeau blanc, effectivement, pour faire bonne figure et pour rentrer dans le droit chemin plus récemment.
Sisi et Vitalik Buterin, leur portrait par Claire Balva. On parlera bien sûr dans un instant des nouvelles difficultés de certains acteurs de l'écosystème cette semaine, Celsius, Three Arrows Capital aussi. Mais d'abord, le reste, les quelques bonnes nouvelles ou les nouvelles intéressantes du moment pour qu'on ne parle pas que des très mauvaises nouvelles. Circle, l'entreprise qui porte le deuxième plus gros stablecoin dollar, l'USDC, Circle annonce la création d'un stablecoin euro backé sur des réserves réelles d'euros. Un stablecoin euro donc porté par une entreprise américaine. Claire, est-ce que ça pose un problème de souveraineté? On va avoir ce nouveau stablecoin euro porté par un géant américain.
Alors oui, très clairement, les problèmes de souveraineté, ils ne sont pas nouveaux dans le monde des stablecoins, puisque la grande majorité des stablecoins sont indexés sur le dollar. Quand on regarde la capitalisation des stablecoins, on est autour de 170 millions, sur 170 milliards, pardon, et sur ces 170 milliards, on en a 140 qui, en fait, sont gérés par les quatre principaux stablecoins qui sont des stablecoins dollars. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des applications qui utilisent des stablecoins utilisent en réalité des équivalents du dollar. Et ce qui est fascinant, c'est que maintenant qu'on voit des stablecoins euros significatifs émerger, eh bien, ces stablecoins euros sont créés par des Américains avec des réserves dans des banques américaines. Et donc, c'est vraiment un drame en termes de souveraineté pour l'Europe, parce qu'on n'a pas d'acteurs français, alors on en a, mais qui ont des stablecoins relativement peu utilisés, ou en tout cas des capitalisations beaucoup plus faibles.
Le LUG,
bien sûr. Le premier stablecoin euro dans les capitalisations, c'est le Stasis, qui arrive en 17e position, avec une capitalisation autour de 120 millions, ce qui est très faible comparé à la masse des stablecoins. Et donc, c'est vraiment un problème de souveraineté monétaire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les États-Unis arrivent à étendre leur souveraineté monétaire, leur pouvoir monétaire sur des monnaies qui ne sont même pas les leurs. Et ça, c'est quand même dramatique de se dire que les États-Unis et les acteurs américains vont avoir un rôle à jouer sur l'euro, sur des équivalents euros qui seront utilisés peut-être par des particuliers européens, par des entreprises européennes, là où l'Europe, pour l'instant, est encore très attentiste et où le régulateur européen est plutôt hostile, en réalité, aux stablecoins, en tout cas aux stablecoins créés par des entreprises privées. Et comme on n'a toujours pas de stablecoin euro qui serait créé par une BCE, par exemple, eh bien, on est toujours dans l'attente de vrais stablecoins euros significatifs avec de la liquidité qui pourraient être utilisés par les acteurs européens.
Mais là, c'est une société américaine.
Là, c'est
pas la
société.
Fed qui lance ça. Voilà. Pourquoi aucune entreprise européenne ne lance de stablecoin euro ou de gros stablecoin euros?
Alors, il y a des entreprises européennes qui lancent des stablecoin euros. On l'a vu avec le LUC, par exemple, qui est cette filiale de casino. Mais les liquidités ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. Et puis, le régulateur est beaucoup plus strict, en réalité, dans l'encadrement de ces stablecoins euros, et donc ça freine tout simplement les acteurs qui créent ces stablecoins. Résultat, ils se créent, mais à l'étranger.
Bon, et donc les stablecoins peuvent parfois se transformer en cheval de Troie au service des Américains, en l'occurrence.
Exactement.
Sur l'euro.
Exactement.
Les stablecoins euros concentrent, alors on le disait, Claire l'expliquait parfaitement, très peu de volume, Owen, contrairement aux stablecoins dollars. Quel serait pour les utilisateurs l'intérêt d'utiliser quand même des stablecoins euros plutôt que ceux adossés au dollar?
Alors, il y a quand même quelques avantages, même en face de chaque inconvénient. Hein, si on prend le point, il y a naturellement moins de volume. C'est vrai, il y a énormément moins de volume, mais ce qui laisse des belles opportunités d'arbitrage pour beaucoup de spéculateurs. Encore une fois, pas tout le monde se tourne vers les stablecoins pour la spéculation, mais c'est le cas de certaines personnes. Et les arbitres, eux, peuvent vraiment faire des profits sur ces différentes paires. Comme il y a peu de volume, les variations peuvent très rapidement modifier le cours et donc permettre de beaux arbitrages. La deuxième chose, ça va être le fait que l'inflation sur l'euro est plus faible que sur le dollar. Ça va donc permettre aux utilisateurs de choisir dans quel cas se faire dormir leur fonds techniquement non volatile, ou du moins la ligne de leur portefeuille la moins volatile et celle qu'ils ne veulent pas exposer à la volatilité du Bitcoin et de l'Ether. Et naturellement, en face de cette inflation, faut quand même rappeler le fait que même s'il y a moins d'inflation sur l'euro que sur le dollar, on se retrouve avec une paire euro-dollar qui est à l'avantage du dollar américain. C'est-à-dire que le dollar a pris 15% face à l'euro sur les 18 derniers mois. Donc chaque avantage vient se contrebalancer évidemment par un inconvénient. La chose, ça va être les rendements, c'est-à-dire que comme il y a très peu de liquidités sur les stablecoins euro, un apporteur de liquidité qui permet d'apporter dans la finance décentralisée de la liquidité en euro va être relativement bien rémunéré sur ces stablecoins, naturellement parce qu'il y a très peu de volume, mais il va donc prendre plus de risques parce que ce sont des pools qui ont été moins audités, sur lesquels il y a moins de volume, et donc naturellement des projets qui ne sont pas aussi résilients que certains stablecoins qui ont fait un plus long bout de chemin et qui gèrent une plus grosse capitalisation. Malgré tout, on peut voir le bon côté de la chose, dans le sens où ça reste une très très grosse entreprise sérieuse qui lance un stablecoin euro, ça devrait apporter des volumes, et ça devrait permettre à beaucoup de gens l'opportunité de diversifier leur stablecoin et de ne pas rester que sur du dollar, et peut-être, on peut l'espérer, ça va envoyer des signaux à l'Union européenne, qui va bien comprendre que soit on dépose et on permet un cadre très simple et très souple pour développer des stablecoins, et on appelle des entreprises européens à le faire, soit il y aura des stablecoins euros, mais qui seront contrôlés et émis par les Américains, tout simplement.
Et voilà, et on voit donc Circle, cette société américaine, prévoir de lancer son stablecoin euro. On va rentrer encore un peu plus dans le dur de cet écosystème, les pros des cryptos. Une semaine de crypto en 25 minutes, il a fait chaud cette semaine dans l'écosystème, et c'est Celsius qui a fait monter la température en premier. En l'occurrence, vous aviez parlé, les pros des cryptos, déjà la semaine dernière, de ces problèmes de solvabilité, puis on parle aussi depuis quelques heures de Spheros Capital, un hedge fund de plusieurs milliards de dollars, lui aussi en difficulté. Juste avant, sur Celsius, Celsius a annoncé la suspension des retraits des utilisateurs. Où est-ce qu'on en est sur cette affaire Celsius et ses conséquences possibles?
Oui, alors pour reprendre un peu l'historique, donc Celsius, c'est un service de lending, donc c'est un service qui vous permet de prêter ou d'emprunter des cryptos, donc vous pouvez déposer des crypto-monnaies et toucher un rendement. Donc c'est un service assez classique dans la finance décentralisée, et on voit bien en ce moment que les produits de lending ont globalement des difficultés avec la baisse des cours parce que c'est difficile de maintenir des rendements. Mais pour Celsius, la situation, elle est particulièrement problématique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont proposé des rendements très élevés. On est monté jusqu'à 18%. Et donc, pour tenir ces rendements, ils se sont exposés à des produits extrêmement risqués. Et ils se sont notamment exposés au protocole Encore, celui qui utilisait le stablecoin UST qui s'est effondré il y a quelques semaines. Aïe. Donc vous imaginez bien que ça leur a causé de gros problèmes de solvabilité, on en parlait déjà la semaine dernière. Et puis deuxième problème, plus récemment, une grande partie des actifs sous gestion de Celsius est sous forme de STETH. Le STETH, c'est un jeton qui représente un Ether et qui vous donne une sorte de place dans les validateurs d'Ethereum 2.0. Souvenez-vous, sur Ethereum 2.0, la validation des blocs de transactions n'est pas la même. Il faudra stacker de l'Ether. Et donc là, Celsius a fait le choix justement d'aller stacker ses Ethers et a en contrepartie ces fameux jetons STETH. Et donc ça lui permet d'utiliser quand même des équivalents de l'Ether tout en se garantissant une place dans Ethereum 2.0. Problème ? Récemment, le Ethereum 2.0 a été reporté, le merge a été reporté, et donc ce fameux jeton STET a perdu son ancrage avec l'Ether, a perdu d'environ 5%. Et donc ça, évidemment, ça leur pose problème, parce que s'ils le revendent, ils font une grosse perte, donc ça leur coûte très cher. Et puis ce STET, ils l'utilisent en garantie également pour emprunter d'autres stablecoins. Et donc potentiellement, ils devraient ajouter d'autres jetons, ils devraient ajouter plus de montants sur cette garantie s'ils ne veulent pas être liquidés. Donc ils sont en grande difficulté financière. Ils ont annoncé lundi l'impossibilité pour leurs utilisateurs d'aller retirer leurs fonds. Donc ça ressemble quand même furieusement à un bank run où on ne peut pas redonner les fonds des utilisateurs qui voudraient les reprendre. Et là, ils ont concrètement besoin d'argent pour survivre. Et donc ils se sont rapprochés de la banque Citigroup. Le seuil vraiment pour eux de difficulté, on le voit là, ce serait un Bitcoin qui passe en dessous des 14 000 dollars par exemple, puisque ça les mettrait en difficulté sur un certain nombre de leurs collatéraux.
Oui.
Donc à suivre.
Celsius qui faisait partie de ces acteurs qui critiquaient vertement le monde bancaire traditionnel et qui pourrait recourir à l'aide de Citigroup.
Ah ben, bien sûr, puisqu'ils ont besoin de fonds, donc il faut aller chercher des fonds où il y en a.
Bon, tout ça a fait monter la température dans l'univers crypto, et puis on a aussi appris les grandes difficultés de ce hedge fund, ce fonds d'investissement Three Arrows Capital, au bord de la faillite, un hedge fund de plusieurs milliards de dollars, Owen. Quelles pourraient être cette fois les conséquences de la faillite de Three Arrows Capital, et à quoi sert un hedge fund, à quoi sert Three Arrows au sein de l'écosystème crypto?
Alors, Three Arrows Capital, c'est le hedge fund qui cherche la prochaine pépite, la prochaine crypto-monnaie qui va exploser et qui prend des participations en early, très très tôt dans le projet. En l'occurrence, ses fondateurs étaient persuadés d'un super cycle. Ils avaient annoncé qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de bear market cette fois et que le cycle allait être très violent et à la hausse. À tel point qu'en plus de prendre énormément de participation, ils empruntaient pour pouvoir faire des longs sur les différents marchés, ce qui les plonge encore plus en déficit. En l'occurrence, ce sont quand même des gros investisseurs dans des blockchains et dans des projets qui sont clés, comme par exemple la blockchain d'infrastructure Avalanche ou encore Solana, le projet qui a lancé le fameux play to earn Axie Infinity. Donc ils sont vraiment présents à de grosses échelles et dans énormément de projets. Ce qu'il faut comprendre sur leur position, c'est qu'en plus d'utiliser une partie de leurs fonds propres, ils avaient donc ces emprunts pour pouvoir réaliser des longs. De la même façon, on entendait de certains volumes, d'accord, on a entendu de 3 à 12 milliards de dollars sous gestion, selon différents médias. En tout cas, le seul article que j'ai réussi à retrouver, c'est un de ses fondateurs qui confirmait avoir plus de 3 milliards sous gestion. On a d'informations et c'est beaucoup trop nébuleux pour donner un chiffre aujourd'hui, mais ça pourrait avoir un impact systémique puisqu'aujourd'hui, non seulement ils peuvent être liquidés à certains paliers et donc une baisse de marché pourrait les affecter encore plus, mais ce que l'on sait, c'est quand ils investissaient dans des jeunes projets crypto, ils proposaient également à ces projets crypto de déposer une partie de leur trésorerie chez Three Arrows Capital et de les rémunérer à un taux fixe de 8%. Et donc, en plus de leurs fonds et de leurs différentes positions, ils détiennent également la trésorerie de beaucoup de projets. Ce qui est intéressant à analyser, c'est les risques systémiques qu'il peut y avoir. L'UST a mis une grosse claque à une énorme partie de l'écosystème sur des lignes de portefeuille qui étaient considérées comme stables. En parallèle de ça, beaucoup de fonds ont attendu d'avoir une position et essayé de voir s'ils pouvaient contrebalancer, si le marché allait pas se relever ou s'ils allaient pouvoir régler la problématique avant qu'elle leur explose au visage. D'un autre côté, on a de plus en plus de structures qui sont interdépendantes. La blockchain est du coup un tissu économique particulier où beaucoup de structures sont interconnectées entre elles et donc sont réellement dépendantes de la santé d'autres structures. Naturellement, certaines pratiques entraîne tout simplement un domino et ça vient toucher une à une autre structure jusqu'à faire tomber de très très grosses entités. On l'a vu naturellement avec Celsius, on le voit maintenant avec Three Arrows Capital, mais on en entend également parler sur différents autres services de prêts et d'emprunts, qu'ils soient asiatiques ou européens, depuis les quelques dernières semaines, suite à la fois de l'UST, ensuite le problème avec l'UST Ether et la baisse de l'intégralité des crypto-monnaies qui vient accélérer encore plus ce genre de problème qui vient à elle-même accélérer la baisse des crypto-monnaies.
Les engrenages de cet écosystème, on va continuer bien sûr d'en parler mille fois au quotidien sur BFM Business et la semaine prochaine dans les pros des cryptos. Beaucoup de nouvelles négatives en ce moment, mais le soleil se lève toujours quelque part. Et le soleil, on le voit actuellement toujours dans l'univers des NFT et ces groupes de luxe qui continuent de s'intéresser au marché des NFT. Par exemple, les marques Lacoste ou encore Yves Saint Laurent, elles sont en train de se lancer les unes après les autres dans le Web3 avec des collections de NFT pour Lacoste ou encore Yves Saint Laurent. Pourtant, beaucoup de monde commence à choisir de critiquer de plus en plus l'écosystème crypto dans la mesure où, ben voilà, les cours chutent, où on voit tous ces problèmes, ces défauts à répétition. Quel intérêt ces marques de luxe trouvent-elles, du coup, à s'y exposer ou à s'exposer en tout cas au marché des NFT? Claire.
Déjà, il faut bien voir que la chute des cours pour ces marques-là, c'est pas non plus un élément déterminant parce que ce ne sont pas des marques qui sont nativement Web3, crypto. Et donc, même si les collections ne marchent pas, même si les cours chutent, ça ne va pas mettre en danger leur modèle économique cœur. Donc, pour elles, c'est plus une question de, déjà d'apprentissage, d'expérimentation, de commencer à comprendre ces technologies. Donc ça permet de faire monter en compétences en interne les fonctions finance, l'informatique, les business aussi, sur ces sujets de communication, parce que les NFT, c'est quelque part la réinvention d'une communication avec ses clients, de la fidélisation de ses clients. Et nous, on voit beaucoup effectivement de marques de luxe, de cosmétiques, de mode qui vont dans ce marché des NFT et qui en fait les utilisent comme une sorte de programme de fidélité 2.0 en allant toucher une communauté un peu différente, en se disant que le NFT va donner des droits d'accès à certaines collections spécifiques, par exemple, va donner des droits d'accès à des événements nouveaux dédiés à ces communautés un peu VIP. Et donc c'est tout simplement la réinvention d'une communication avec ses clients, la constitution de nouvelles communautés qui sont en lien aussi avec les marques, avec des NFT qui ont un ADN artistique un peu spécifique selon la marque dont on parle. Donc c'est assez logique finalement que ces marques aillent sur ce marché-là, même si les cours chutent, même si le marché des NFT se réduit un peu en ce moment. Pour elles, c'est vraiment une vision long terme de la fidélisation client.
Et les cours chutent sur les NFT aussi. Les NFT ont été affectés, Owen, par la baisse globale des marchés et aussi des cours des cryptos.
Alors, j'ai quelques métriques qui sont plutôt intéressantes. Premièrement, le fait qu'il n'y a pas eu exactement le même effet sur les crypto-monnaies que sur les NFT, et que là où on voit naturellement une baisse de volume financier, hein, parce que la plupart des crypto-monnaies ont perdu de la valeur en euros ou en dollars, quantitativement, ça se maintient. C'est-à-dire que le plus gros mois des NFT, c'était en janvier, c'était 2,3 millions de NFT échangés, hein, je parle quantitativement. On se retrouve mi-juin à déjà 1 million d'NFT échangés. Donc on va terminer le mois à peu près 2 milliards sur un marché qui n'a plus du tout les mêmes valorisations qu'en janvier. Donc d'un point de vue quantitatif, il y a toujours autant d'émulsions et autant de transactions, un petit peu moins. On a également d'autres valeurs qui, elles, baissent naturellement. On peut prendre l'exemple de la collection la plus suivie, qui est celle des Bored Ape. L'ATH, c'est-à-dire un NFT, coûtait 153 Ethers, ce qui faisait à l'époque 420 000 dollars. Aujourd'hui, naturellement, baisse des cours, repricing. On est à 85 ETH par NFT, et ce qui représente donc 91 000 dollars, soit une division, une baisse d'à peu près 75% de l'ATH au niveau de son prix. Ce qui est relativement intéressant à voir, c'est que certes, il y a une baisse de volume financier, mais il y a quand même un intérêt technologique qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs quantitativement. Il y a naturellement des chiffres qui baissent, le nombre de transactions qui sont faites sur la plateforme et les volumes financiers qui passent. Mais si on regarde d'un point de vue de la quantité de nouveaux utilisateurs actifs, on voit par exemple qu'en janvier, au maximum, la plateforme avait touché 550 000 utilisateurs actifs sur la plateforme sur une période de 30 jours. Mmh. Aujourd'hui, mi-juin, on est déjà à 300 000 utilisateurs actifs sur la plateforme. Il y a évidemment des petites installations techniques qui justifient tout ça, notamment le fait que la plateforme est en train d'intégrer d'autres blockchains qu'Ether et permet donc des transactions moins coûteuses et plus rapides sur d'autres blockchains comme par exemple Solana.
Le baromètre des NFT, notre baromètre Owen Simonin, alias Asher et sa chaîne YouTube. Merci beaucoup Owen de nous avoir accompagnés. Votre société Just Mining, il paraît qu'on a beaucoup parlé aussi de NFT à Vivatech. Hein, c'est ce que
oui,
nous disent
oui, complètement.
Ouais, tous nos reporters, nos envoyés spéciaux BFM Business. Claire, vous étiez aussi à Vivatech. Claire Balva pour Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Merci à tous les deux donc de nous avoir accompagnés. Les pros, les cryptos, chaque vendredi sur BFM Business. Dans un instant, on va se reconnecter à la finance traditionnelle, le CAC 40. Poussif après sa forte baisse d'hier, on peine à rebondir aujourd'hui. On se retrouve dans moins de deux minutes, juste après la pause. À tout de suite.
C'était votre rendez-vous avec Phil Mining, plateforme française spécialisée dans les investissements et placements en crypto-monnaie.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.